Micro-cravate.
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 Micro.
Micro-cravate.
Micro-cravate.
Vous écoutez Micro-Cravate, l'émission de reportage et création sonore qui se souvient. Quelque part entre Bruxelles et Montréal, Jérémy consulte un non-voyant. Jacques fait remonter de vieilles rancunes. Paul retrouve la saveur des coquillettes. Des mémoires douces amères comme un arrière-goût de novembre. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 16e numéro de Micro-Cravate sur Choc, qui vous sera présenté par Gauthier Piatek.
Salut Anna, bonjour à tous.
Et moi-même, Anna Massé. Aujourd'hui, 16 novembre, cette semaine, c'était le jour du souvenir. Micro-Cravate en a profité pour sonder non pas la mémoire collective, mais celle de l'intime. On part du côté de Namur, en Belgique, pour notre premier reportage.
Que nos esprits s'épanouissent!
À quoi ressemblent les souvenirs de ceux qui ont perdu la vue? Est-ce que les images s'effacent avec le temps? De quelle manière rêvent les non-voyants? Jérémy Audouard a rencontré Louis Mailly dans une gare, avec sa canne blanche et son chien guide. Autour d'un café, Louis raconte son passé, en forme et en couleur, et son présent, entièrement blanc.
Qu'est-ce que c'est vos derniers souvenirs en images? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, ou vous êtes dit, ça c'est les derniers moments où j'ai pu voir?
Bah, je garde surtout le sourire de mon épouse. Moi, j'ai un avantage, je ne la vois pas vieillir. Donc, dans ma tête, elle est toujours jeune. Elle a toujours son visage d'il y a 30 ans. C'est un avantage pour elle. Je ne l'ai pas vue vieillir. Et idem pour les enfants, à part que le dernier, je ne l'ai jamais vu son sourire. Ça me manque. Je m'appelle Louis Mailly, je suis marié depuis 30 ans, nous avons 3 enfants. Je suis occupé à l'administration communale de Namur, service voirie, entretien des routes. Ma jeunesse, je l'ai passée à Namur, un petit peu par la force des choses. Maman étant hospitalisée, quand j'ai eu 3 ans, on m'a mis en pension et j'étais en pension à Saint-Jean-de-Dieu, à Namur. Là, j'ai fait toutes mes primaires, j'ai fait mes années professionnelles ici à Namur aussi.
Et à partir de quand on a diagnostiqué votre maladie?
Relativement tôt, je vais dire quand j'étais adolescent, le médecin que je consultais, l'ophtalmologue, était conscient de la présence de la maladie, mais voilà, les choses n'ont pas... Il ne m'a pas guidé vers des études qui ne me conviendraient pas, donc c'est ça que j'ai appris, la plomberie, zingri, chauffage central. Mais je n'ai pas pu exercer, j'ai dû me tourner vers autre chose.
Qu'est-ce que c'est la maladie qu'on vous a diagnostiquée
C'est ce qu'on appelle une rétinite pigmentaire, c'est-à-dire par les photographies, c'est le film qui n'impressionne plus, la lumière m'éblouit, je vois tout blanc. Jeune, j'étais gêné par la lumière, la vue nocturne n'était pas bonne, j'avais besoin d'être accompagné ou bien d'avoir... Même me déplacer avec une lampe de poche était limite. Ça ne m'a pas empêché d'aller au scout, mais bon, s'il fallait faire des jeux de nuit, j'étais perdu. Mais à part ça, ça ne m'a pas empêché même de faire de la cartographie en étant scout. Ma vue me permettait de lire une carte. J'ai conduit, étant adolescent, un vélo moteur, mais j'ai abandonné. Vu les dangers que ça pouvait représenter, étant donné qu'à l'époque, j'avais déjà une vue qu'on appelle tubulaire. Pour le commun des mortels, je dirais, c'est comme si vous regardiez en permanence dans une paire de jumelles. Ce qui me reste, je vais dire, c'est jour-nuit, comme dans Les Visiteurs, là, on allume et on éteint la lampe. Pour vérifier si, par exemple, il y a de l'éclairage dans la pièce, je joue par le contraste. J'allume et j'éteins les lampes pour vérifier, ou bien je suis obligé d'utiliser un détecteur de lumière. Voilà, les ombres, ben, je ne les vois quasiment plus. Comme j'ai vu, ça m'arrive de rêver en images, mais je sais que les non-voyants de naissance, eux, rêvent de sons, de bruit. Leur univers est rempli de bruit, de sons, de musique, tout ce qui est environnement sonore, je vais dire, le ressenti de cet ordre-là. Il n'est plus de ressenti de l'image.
Et vous, par exemple, quand vous rêvez, c'est un mélange de tout ça ?
Moi, c'est encore beaucoup l'image. C'est encore beaucoup l'image parce que l'image est encore là. Je veux dire, il y a seulement 10-15 ans que j'ai perdu l'image. Mais, par exemple, un non-voyant de naissance, il va associer les couleurs, on va lui dire orange, mais il va penser aux fruits. Orange, on lui a expliqué que l'orange était, la couleur orange était, il va associer tout de suite le fruit orange. Vert, ben, il va associer la pomme, parce qu'on lui a appris que c'était comme ça. Le jaune, il va l'associer banane ou citron. Ou bien des saveurs, ça va prendre une couleur par les fruits, par ce qu'il a goûté.
Est-ce qu'on va dire aveugle ou non-voyant, ou est-ce que
c'est à la mode non-voyant.
C'est à la mode, mais qu'est-ce que vous en dites, vous ? C'est pas important ?
Non. Non. On dirait que le mot aveugle fait peur par psychologie. Pardon. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a voulu le changement. C'est que certaines personnes aveugles, ça rebutait. Mais bon, aveugle ou non-voyant, de toute façon, la situation est la même.
Et avec votre chien, ça attire pas mal de sympathie quand même aussi ?
J'imagine bien sûr,
c'est un moyen de vous aborder.
C'est un moyen de nous aborder. Et ça va même parfois à avoir envie de leur dire, et de l'autre côté, il y a quelqu'un. On parle au chien, mais on ne me parle pas à moi. Ou bien, par exemple, quand je suis avec mon épouse, on s'adresse à mon épouse, mais je ne suis pas taré, je sais répondre. Alors parfois, on utilise, tu as vu un livre, et puis hop, tu as lu un livre, hop, on veut se reprendre. Et moi, je dis, bah non, j'ai lu un livre, on utilise le même terme. Pas de tabou. C'est une autre façon de voir, mais on a vu.
Dehors, dehors, je t'aime, je t'aime. Ouais. Micro-cravate.
Il y avait la Madeleine de Proust, il y aura désormais le goût des coquillettes. Une nouvelle série de Paul Venet qui interroge les souvenirs en culotte courte de vieux gamins et gamines. Aujourd'hui, vélo, gadin et pâte au fromage.
Je me souviens. À cette époque, je menais une vie tranquille et sans histoire. Une vie de petite fille.
Moi, quand j'étais petit, je voulais devenir gardien de koala avec une sarbacane.
C'est bonne, ces pâtes au fromage, non? Ça m'appelle les coquillettes quand j'étais petite.
T'es grave. Le goût.
Le goût.
Le goût.
Le goût.
Des coquillettes.
Des coquillettes.
Un après-midi, rue Saint-Christophe à Montréal. Je rencontre Arnaud dans un studio d'enregistrement. Une grande case pleine de bric-à-brac, d'instruments de musique et de couloirs. Le trotteur ayant atterri au Québec, il a posé ses valises en 2008. Il chante, il joue de la guitare dans le trio La Perche et travaille, mais pas trop, en tant que technicien son. Derrière lui, sont posés un vase rempli de fleurs et un accordéon. Il se souvient.
Il y a quelque chose qui me revient en mémoire. Là. Je me rappelle quand j'avais à peu près 8 ans, je ne sais plus si c'était en quelle classe, et la professeure voulait organiser une sortie à vélo. Et j'étais le seul de toute la classe qui avait jamais fait de vélo. Tout le monde savait leur vélo, tout le monde savait faire du vélo. Puis moi, je me rappelle que j'étais le seul qui savait pas faire du vélo. Alors c'était la prof m'avait dit, il faut que tu apprennes à faire du vélo, il faut que tu viennes. Alors j'avais une semaine pour apprendre à faire du vélo. Donc tous les soirs après l'école, mon père m'amenait avec le vélo de mon frère qui était plus grand, forcément, je touchais pas par terre. Et bon, les premières fois, c'était drôle parce que j'étais dessus, puis il me poussait, puis il fallait que je pédale. Et donc, je me suis pris quelques bleus, puis quelques.
Normal.
Quelques pizzas, là, comme on dit. Là. Et donc, au bout d'une semaine, j'arrivais quand même à pédaler sur ce vélo trop grand. Et alors, ce souvenir, c'était que, bon, c'était dans les Alpes, parce que je suis du sud-est de la France. Et chez nous, il y a pas mal de reliefs. Et je me rappelle, moi, j'arrivais quand même à m'en sortir pas trop mal, tu sais. J'arrivais à pédaler quand c'était plat, c'était bon. Bon, j'étais toujours le dernier, hein. Mais à un moment donné, tout le monde s'est arrêté près d'une espèce de pente, là, qui pour moi semblait être un ravin, là. Et chacun son tour, alors les uns après les autres, il devait y aller. Et donc, quand il y en a un qui partait, bon, il y avait une prof qui attendait en bas, fait que... Et arrivé à mon tour, j'ai dévalé la pente, puis je me suis ramassé en plein milieu de la pente, une grosse gamelle, et celle d'en haut, elle a pas vu, et l'autre est parti. Puis il m'a roulé dessus, puis c'était comme, voilà, c'est un souvenir impérissable.
Ouais, et c'est plutôt douloureux quand tu y penses ou...
Ben non, c'est pas vraiment douloureux, parce que je trouve que c'était quand même, c'est ça l'apprentissage. C'est, on n'apprend pas quelque chose, il y a toujours des chutes, il y a toujours des gamelles. L'important c'est de se remettre en selle, puis de continuer à pédaler, là, puis un jour on arrive à faire du vélo. Il y a un autre souvenir qui m'est revenu il n'y a pas longtemps aussi. C'est quelque chose que j'avais oublié, puis que je me suis souvenu il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si tu as vu l'été indien la semaine dernière, qui était assez chaud, puis des couleurs magnifiques.
Ouais.
Et je me rappelle que quand j'étais petit, dans les toilettes, il y avait toujours des... Mes parents avaient toujours une collection de Géo, tu sais, c'était un magazine de photographie. Et je me rappelle que y en avait un en particulier qui parlait du Canada. Et y avait des photos justement de ces érables rouges, jaunes, couleur de feu un peu. Là. Et je me rappelle que j'étais resté peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure assis sur le bol, puis... à feuilleter ce géo, puis à chaque fois que j'allais aux toilettes, je prenais ce livre, puis je regardais, puis je m'étais dit un jour que j'irais au Canada, mais après ça, j'avais complètement oublié ce passage. Et puis maintenant que j'y suis, tu vois, je m'en suis rappelé, mais tu sais, c'est pas parce que j'avais vu un géo que je suis venu ici, c'est pas parce que j'ai lu un géo dans les toilettes que je suis venu, là. Mais Mais ça m'est revenu la semaine dernière quand j'ai vu ces belles couleurs.
C'est peut-être un truc inconscient, sinon.
Peut-être aussi, hein. Ou peut-être que c'était écrit, finalement. Que...
Et maintenant, t'y penses quand t'es sur les toilettes?
J'y pense quand je vois l'été des Indiens, puis les belles couleurs. Je me rappelle quand j'étais petit sur les chiottes. Donc voilà, ça c'est un autre souvenir.
Parfois, sacrifier du temps aux choses importantes, voire essentielles, comme par exemple la cravate.
On finit l'émission avec notre classique Cadavre exquis, écrit par nos différents auteurs, tapis dans l'ombre, prêts à balancer leurs bons mots, le tout narré par la voix profonde de Jacques Le Bourgeois. Cette fois-ci, c'est un vieux souvenir qui refait surface. À trop remuer les vieilles histoires, tout part en vrille.
Podiaout, ficelle, podiaout.
Bienvenue dans ce 8e épisode. Je l'ai appelé Parti pour la gloire.
Ne pars pas, reste. Reste encore un peu. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas repartir sans lui avoir dit que tu étais là. Ça fait des années, des décennies que tu es absent. Regarde-toi. Tu es un vieillard maintenant. La vie est bientôt finie pour toi. Tu ne parles pas. Tu ne trouves pas que tout cela est absurde. Tu reviens aujourd'hui, alors que nous sommes tous réunis, et tu ne préviens personne. Nous ne sommes que deux à être au courant. Tu voulais juste passer, ne rien dire. Quand je te regarde, je n'arrive pas à imaginer que tu es son père. Il ne te ressemble pas tant que ça. Je me demande comment tu as fait pour disparaître. Es-tu reparti en Amérique? Est-ce que tu comptes y retourner à nouveau? Je me permets de te questionner comme si tu avais des comptes à me rendre. Tu ne devrais pas être là. Il se peut que tu ne sois qu'un rêve, une apparition. C'est ma sœur qui m'a dit t'avoir vu. Tu lui as parlé, tu lui as dit qui tu étais. Et avant que tu ne t'évapores, elle est venue me prévenir. Tu ne laisses paraître aucune expression sur ton visage. Je ne sais pas d'où tu viens, où tu comptes aller. Je ne sais pas si tu as ta place parmi nous. Te rends-tu compte de ce que nous sommes? Mais peut-être qu'avant de revenir en France, tu ne savais rien. T'as-t-elle seulement dit quelque chose avant ton départ? Qu'est-ce qui t'est resté de cette époque? Qu'as-tu en mémoire? Après la guerre? Après les combats? Tu te souviens, n'est-ce pas? Et avant? Avant la guerre? Viens-tu d'une grande métropole où l'horizon est bordé de buildings? Je me suis toujours demandé de quel pays venaient tes ancêtres. Irlande? Italie? Angleterre? Tu as sans doute beaucoup d'histoires à raconter. Es-tu venu jusqu'ici pour nous faire part de l'une d'entre elles? Ne pars pas. Je sais que tu n'es pas le seul à avoir disparu comme ça. Tu as fait comme beaucoup d'autres. Tu es rentré chez toi. As-tu vu le film Paisa? Pour moi, tu es l'un d'entre eux. Un de ces soldats qui parcourent l'écran. Que l'on voit en mouvement, mais qui jamais ne dit rien devant la caméra. Qu'as-tu vu? Entendu? Est-ce que vous vous êtes parlé? Que lui as-tu dit? Tu ne diras rien. Je sais que tu ne diras rien. Tu ne partiras pas et tu ne diras rien. Tu n'auras peut-être jamais été là. Et tu resteras planté sur tes jambes que peut-être tu n'as pas. Ou qui sont ailleurs. Ou qui sont pour quelqu'un d'autre. Même ça, tu ne me le diras pas, n'est-ce pas? Tu ne parleras pas. Alors laisse-moi au moins parler pour toi. Tu n'auras jamais vécu la guerre. Et avant cette guerre, que tu n'auras pas vécu, tu ne sauras pas ce que c'est. Tes ancêtres ne viendront pas d'Italie, et certainement pas d'Irlande, ni d'Angleterre. Et tu ne diras pas d'où ils viendront. De l'Amérique, tu n'auras que très peu à dire, n'est-ce pas? Tu n'y auras pas d'attache, comme le reste. Tu n'auras pas de projet pour le présent. La France, tu n'auras rien à y faire. Pas plus que la dernière fois. Pas plus que nulle part ailleurs. Les films sur la guerre, tu les auras peut-être vus. Ça, je ne sais pas. Tu auras peut-être les souvenirs des visages. Mais cela ne changerait pas grand-chose. Des visages, tu en auras vu des milliers. Et ce ne sera jamais que des visages, vus ou pas vus. Et tu n'iras pas le voir. Tu seras apparu à nous comme pour montrer que tu n'iras pas le voir. Et pour que nous le sachions. Et pour que ce soit à nous de décider si nous lui disons ou pas. Pour nous laisser finir ce que tu n'as jamais osé commencer. Et lui dire quoi, d'ailleurs? Tu n'as rien dit, et tu n'inspires que le mensonge. Je ne suis même pas bien sûr que tu as vraiment été là. Tu continues ton silence, tu me laisses raconter, et ton corps paraît s'effacer. Au loin résonnent les sirènes, les vrombissements venant des casernes, et les piétons marchent sous les réverbères. Tu commences à te poser des questions, à te demander pourquoi tu ne pouvais pas aller le voir. C'est très simple. Tu dois te souvenir de cette fois où on est allé dans un petit troquet. Mais si, tu sais bien, place de l'Almanach. Une place bien minable d'ailleurs. Dans ce troquet, le Ricardo, nommé ainsi parce que le patron avait des origines ibériques. On s'était installé à cette table, et tu avais commencé à éructer comme un crétin à la vue de Samantha, la blonde et cervelée qui tenait lieu de serveuse dans ce boui-boui. T'étais déjà bien bourré. Tu as commencé à reboire. Des bières, des pastis, des vodkas. Tout ce qui te passait sous la main. On a tenté de te raisonner, mais t'étais incontrôlable. Résultat, après des litres et des litres d'alcool ingurgités, tu tenais plus debout, et tu commençais à faire du gringue à la serveuse. C'était pas beau à voir. Après t'être ridiculisé devant tous les pochetrons, parce que oui, tu t'es pris une veste magnifique, tu as perdu ton calme, tu as sorti ton pistolet de ta poche de veste. Ça faisait pas sérieux. Tous ces yeux éberlués devant la vue du canon froid de ton Colt. Un M1911, si je me rappelle bien. Tu vois, c'est à ce moment que c'est parti dans le décor, qu'on a dépassé les bornes, On était borderline, bordel. Tu peux tirer sur ta clope autant que tu veux, ça changera rien. On peut pas changer le passé. Et c'est pour ça que tu n'iras pas le voir. Ce serait contraire à toute logique. Prends ça comme une punition. Pas du genre punition divine, mais plus comme un juste retour des choses. Il va bientôt pleuvoir. On ferait mieux de se dépêcher. Tu viens ? Et puis arrête de ronchonner, tu m'épuises. Qu'est-ce qui t'a pris d'abord de descendre la moitié des types présents dans ce bouge ? Tu pensais qu'il allait lui arriver quoi, ton petit frère, hein ? Toi, t'as dégommé tout le monde pendant que moi je t'ai hurlé dessus. Rien à faire. Tu l'as presque scalpé, la Samantha. Et l'autre, le gros porc, au bout du bar. Tu lui en as collé combien dans le bide ? Facile de prendre la tangente après, et de laisser le gamin casqué pour toi. Donc non, on n'ira pas le voir au parloir de Fleury. Tu perds la tête ou quoi ? Et puis d'ailleurs, marche plus vite. Y'a Robert qui nous attend. Avec tes conneries, on est en retard sur au moins 10 livraisons. Et c'est pas avec cette pluie de merde sur la route que ça va nous faciliter les choses. Au fait, t'as bien mis le sac dans le coffre ? Non, parce que je te connais, manquerait plus qu'on doive refaire un détour à l'appart. Et puis d'ailleurs, qui nous dit qu'il nous a pas balancé le petit Jimmy, hein ? Quel couillon tu fais ? Tiens, elle est garée là. Attends 2 secondes, je t'ai dit. Je vérifie que t'as rien oublié. Passe-moi les clés d'ailleurs. Comment ça, non ? Mais merde, tu fais chier. Me la fais pas à l'envers, je suis à bout. Tu me files ces foutues clés ou je t'en colle une ? Les clés ! Qu'est-ce que t'as dans la poche, là ? Tu me menaces, connard ? Quoi, bordel ? C'est à cause de Biarritz, tout ce merdier ? Mais je te l'ai dit, cette fille, c'était que des emmerdes. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Pour toi. Pour moi. Alors maintenant, on fait comme on a dit. On fourgue le sac à Robert, puis on quitte Paname. Et c'est tant de merde. J'ai un pote dans le sud. Il a tout arrangé. On largue les amarres. Tu verras. Ça va aller. Je vois bien que tu craques. Mais fais-moi confiance. Je t'aime, moi. Tu piges ? Puis le gamin. Tu lui écriras quand on sera au vert. Faut pas t'inquiéter pour lui. C'est déjà un dur. Je le sais. Allez, fais pas le con. Donne-moi les clés. Lâche ce couteau.
Podiaout. Ficelle. Podiaout. Ficelle.
Voilà, c'est fini. Je tiens à remercier Léo, Gauthier, Éléonore et Anna pour leur participation à l'écriture de ce texte. Sans oublier le musicien de cet épisode, qui cette fois-ci n'était autre que Kitaël. À la prochaine.
C'était Micro-Cravate. On remercie les journalistes et artistes qui ont participé à l'émission, ainsi que vous, qui n'oubliez pas de nous écouter tous les deuxièmes dimanches du mois. Micro-Cravate revient le 14 décembre. D'ici là, retrouvez les podcasts de l'émission sur choc.ca et plus de reportages sur le site microcravate.com. À 17h, rendez-vous avec Mutation. Bonne fin de semaine sur Choc.
Bon dimanche.
I need 2 words.
Okay.
Micro cravate.